Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls, le podcast spécial comics. Dans cette nouvelle émission, Dragor et moi allons présenter chacun un comic book. Comment vas-tu, Dragor ?
Eh bien, il se trouve que je suis en week-end, donc je vais extrêmement bien.
Oh, oh, oh. Oh mais c'est un week-end à rallonge.
Ah bah ouais, 3 jours.
C'est pas mal. Vous êtes bien sur les ondes de puissance maximale, évidemment. Je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls. Star Trek pour les nuls. Alors, une émission sous le thème du crossover. Non, il ne s'agit pas de la voiture, mais d'un concept que l'on retrouve très souvent dans les comic books, dans lequel des univers fictifs différents sont mêlés, voire même entre éditeurs. Donc on peut avoir des crossovers entre chez Marvel, par exemple, entre Spider-Man et Captain America, mais... très souvent, on a des crossovers entre éditeurs. Donc là, par exemple, entre DC et IDW, avec l'émission que j'avais présentée sur Star Trek Green Lantern, qui nous permet d'avoir des histoires avec des personnages hyper connus, hyper fun. C'est hyper fun, et généralement, en fait, c'est pas très bon, mais des fois, c'est très bien. Voilà, c'est bien comme présentation. Ça va pas.
Eh ben écoute, je savais pas du tout qu'il y avait une voiture qui s'appelait crossover.
Tu
m'as appris quelque chose.
Les crossovers, en fait, si tu veux, ce sont des 4x4 de ville. Donc c'est un type de voiture, c'est même pas une marque, c'est pas un modèle, c'est un genre de voiture.
C'est-à-dire que t'as tous les défauts du 4x4 sans avoir les avantages, c'est ça ?
Tu as exactement une grosse voiture pour la ville, donc tu peux pas te garer, ça pollue énormément, et tu peux pas aller dans un champ parce que sinon tu te bousilles les pneus et les... voilà.
C'est génial.
Cette émission est sous le thème du Duster de Dacia. Voilà.
Ça plairait beaucoup au Ferengi comme concept.
Oui, voilà, ils vendraient plein de trucs, hein, parce qu'il faut absolument, ça se vend de ouf. On n'en a pas parlé avant l'émission. Qui parle en premier ? Est-ce que tu veux commencer ou je commence ?
Bah écoute, moi je veux bien commencer. Après quand même ça va durer 45 minutes, tu risques d'être un peu fatigué pour faire ta partie, mais sinon...
Là on commence à être habitué.
Normalement ça devrait pas être trop long.
Tes petites reviews de 3 quarts d'heure, 2 heures. Non mais c'est ce qui est bon. Au contraire, vas-y, lance-toi.
Alors donc je vais vous parler d'assimilation au carré. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, il y a un petit 2 donc je suppose que c'est au carré. Qui est donc un crossover de IDW uniquement, c'est pas entre éditeurs.
Comment est-ce que tu prononcerais le titre de Alien 2 ? Alien au carré ? Ah non, c'est Alien, c'est Alien 3 qui est au cube. Oui, pardon.
Ouais. Le problème, c'est que c'est pas un 2, si tu veux, là, pour ce cas.
Ouais.
C'est pas une suite, donc c'est pour ça que l'exposant fait partie du titre, et pas... Enfin bref. Donc entre Star Trek évidemment, hein, puisqu'on est là, et Doctor Who.
D'accord.
Alors déjà de base, rien que sur le concept, moi quand j'ai appris qu'il y en avait un, j'étais déjà séduit en fait. C'est vrai que Star Trek on le compare souvent à Star Wars, mais il y a pas grand, enfin mis à part le fait que ça se passe dans l'espace et qu'il y a des vaisseaux, il y a pas beaucoup de liens entre Star Trek et Star Wars. Alors que entre Star Trek et Doctor Who, il y a des liens très très forts.
Je connais pas du tout Doctor Who, mais je suppose dans les thèmes abordés.
Alors dans les thèmes abordés, effectivement, c'est de la science-fiction.
De la high science-fiction.
Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est pas du space opéra, encore que hein, ça peut se discuter, mais. Et ne serait-ce que déjà sur les années de production, Doctor Who ça a commencé en 1963, Star Trek en 1966, ou 1964 si on tient compte du premier pilote, Ce qui fait que les deux séries, elles sont pratiquement aussi anciennes l'une que l'autre, et elles ont la même longévité, puisque les deux séries continuent à fonctionner encore maintenant. Ce qui est rien que ça, deux séries de science-fiction aussi anciennes et aussi vieilles, il n'y en a pas d'autres, ça n'existe pas. Mm-hmm. C'est principalement des séries, et il y a des films aussi, mais... alors que Tarot, c'est quand même principalement des films, et puis il y a des séries à côté, pour appuyer le fait que la comparaison avec Doctor Who est plus pertinente. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les deux séries sont faites mutuellement des hommages au film du temps. Et il y a aussi un truc marrant, alors qu'ils ne vérifient plus vraiment maintenant, c'est que quand Doctor Who s'arrêtait, Star Trek commençait et vice versa.
J'avais entendu parler de ça.
De 1989 à 2005, Doctor Who a eu une longue interruption où il n'y a rien eu en fait de sortie pratiquement. Et c'est exactement pendant le moment où Star Trek était en plein âge d'or de 87 à 2005.
D'accord.
Et puis en 2005, quand Star Trek s'est arrêté en série, bah, Doctor Who, il y a eu le revival qui a démarré. Donc ça fait un peu un ping-pong entre les deux. Enfin bref, voilà. J'aime bien cette espèce de rivalité qui est pas vraiment une rivalité parce que c'est plus des consoeurs que des concurrentes. Et je trouve que les deux séries ont...
J'ai une question. Doctor Who, c'est anglais.
Oui, c'est ça. Et donc, alors... En fait, c'est pareil, c'était la concurrente anglaise de la série américaine de science-fiction. Enfin, voilà, c'est la... Pour moi, Doctor Who, c'est la Star Trek anglaise, en fait. Même si, même si c'est pas la même chose. Et tu voulais développer là-dessus?
Ben non, en fait, j'allais te demander, en fait, Voilà. Non, il me semblait bien que c'était une série anglaise et une série américaine, et je trouvais sympa de voir qu'il y avait des petits clins d'œil entre les deux. Je sais pas quelles sont les relations entre les chaînes de télé de pays différents. J'y connais rien du tout, mais je suis surpris dans le positif de voir que ces deux séries peuvent s'estimer. C'est pas dans une série enfin t'auras pas de référence à des séries françaises de Mars Mission pardon tu verras aucune référence dans une série américaine je pense même si Mission devient un jour hyper connue.
Ouais, c'est possible effectivement.
Enfin je sais pas. Je dis peut-être des bêtises. Je suis un gros noob là-dessus, j'y connais rien.
J'avoue que j'ai jamais trop traqué les références à des séries françaises aux États-Unis. Bon, faut dire que nos séries françaises. Enfin bon, on va pas commencer.
Non, mais voilà. Ça digresse dès le début, c'est bien ça. C'est bien.
Du coup, je sais plus où j'en étais. Oui, donc, je vais peut-être parler du comics un peu, ça sera pas mal.
Pourquoi? C'est une émission de comics?
Ouais, il paraît. Donc l'histoire, rapidement, donc c'est le 11e docteur, donc celui qui est joué par Matt Smith, qui, avec Amy et Rory, vont... Alors, il y a des petits trucs avant, mais globalement, ils vont arriver avec le TARDIS dans l'holodeck de l'Enterprise D, en plein Dixon Hill. Donc au début, évidemment, ils vont pas comprendre qu'ils sont pas dans l'Amérique de l'époque de Dixon Hill. Bon, ça va aller assez vite. Et du coup, bon, ben les deux équipages, on va dire, même s'ils vont faire connaissance.
Alors, excuse-moi de te couper juste une seconde, c'est parce qu'on nous a fait la remarque. Est-ce que tu peux juste développer Dixon Hill en trois mots, dire? Ce que c'est par rapport à Star Trek en temps normal.
Ah oui, alors...
Désolé.
J'avais pas prévu ça. Dixon Hill, c'est un divertissement holographique. Et donc dans l'holodeck. Est-ce qu'il faut que je développe ce que c'est que l'holodeck aussi?
Ben, l'holodeck, c'est le moyen de s'amuser pour les membres de l'équipage de l'Enterprise dans la série TNG. En gros, c'est un peu comme un film en 3D, en 4 dimensions.
Ouais, alors pour le dire autrement,
Ouais.
oui, quatre dimensions, parce que enfin c'est de la VR, sauf que c'est au lieu que ce soit un casque qu'on met, on est dans une pièce qui va simuler tout l'environnement. Et il y a le goût, les odeurs, les sensations, il y a tout, quoi. Et c'est hyper réaliste. Voilà. Et donc Dixon Hill, c'est un des nombreux jeux en fait hein, qu'il y a dans cet holodeck, qui est adapté de romans. Alors, je me suis jamais posé la question, est-ce que c'est des romans qui existent vraiment dans notre monde ou est-ce qu'ils ont inventé le truc complètement?
Eh bien, je te
T'en as une
propose
idée?
de continuer de parler. Je vais faire la petite recherche sur
D'accord.
DuckDuckGo. Une seconde.
Et donc ça se passe, si je dis pas trop de bêtises, dans les années 50 aux États-Unis, et c'est une sorte de Sherlock Holmes des années 50, quoi. Voilà, c'est du policier, c'est des enquêtes à résoudre, des énigmes à trouver, etc. Et donc le capitaine Picard est assez friand de ce jeu-là.
Alors non, c'est un personnage fictif inventé pour la série TNG. Voilà.
D'accord, bon ben comme ça, même moi j'apprends des trucs dans l'émission, c'est cool.
Star Trek, pour les
Merci.
nuls. Vas-y, je t'en prie, excuse-moi.
Je suis officiellement nul du coup.
On te rétrograde au rang de cadet. Tu n'es plus commandeur.
D'accord, ça marche. Je suis pas très à cheval sur les grades. Évidemment, le docteur, il se retrouve pas là par hasard, parce que c'est quand même deux univers différents. Donc, le docteur, il voyage dans le temps très facilement, d'un univers à l'autre, c'est peut-être un peu plus compliqué, surtout sans faire exprès. Et donc, en fait, il se trouve que les Cybermen alors c'est pas trop expliqué comment, mais ils ont relié les deux univers pour pouvoir s'allier avec les Borg. Et ils espèrent, en s'alliant avec les Borg, pouvoir conquérir la galaxie des deux univers. Voilà, donc ça c'était pour le pitch de départ. Donc à l'écriture, on a Scott et David Tipton avec Tony Lee.
Ah, mais
Donc les frères
décidément.
Tipton, on en a parlé dans l'émission sur Blue Velvet.
Ouais, et je pense qu'on va en reparler très bientôt.
D'accord. Ah, ils sont assez prolifiques, hein. Tony Lee. Qui est un auteur extrêmement prolifique, qui a fait beaucoup beaucoup de choses. Il a travaillé pour Marvel, pour DC, pour IDW, sur des licences comme Doctor Who, Superboy, Starship Troopers, Sherlock Holmes, Spider-Man, X-Men Unlimited. Enfin, il a écrit une dizaine de romans. Il a même fait un épisode pour une série. C'est une série anglaise qui s'appelle Doctor. Ça, apparemment, c'est une série de hospitalière, un truc à l'urgence ou quelque chose comme ça. Voilà, donc vraiment, c'est trois auteurs qui sont vraiment, on va dire, assez reconnus et qui ont fait vraiment beaucoup de choses. Donc c'est pas des personnes inexpérimentées, quoi. Au dessin, alors pour les trois premiers numéros, on a J.K. Woodward qui fait à la fois le dessin et la couleur. Donc lui, il a travaillé sur une quinzaine de comics, à peu près, principalement pour IDW. Et il est surtout connu pour dessiner la série Ongoing Fallen Angel. Pas du tout de quoi il parle, mais bon, voilà.
Je
C'est
connais pas du tout.
son truc
Ça me dit
principal. C'est ça
rien.
qui l'occupe le plus. Pour les numéros suivants, parce que je l'ai pas noté, mais il y a huit numéros, en fait, de ce comics. Donc pour les suivants, donc J.K. Woodward, il reste à la couleur, mais c'est Gordon Purcell qui prend le relais au dessin. Alors lui, il a bossé sur pratiquement une soixantaine de comics de divers éditeurs, donc il a de IDW bien sûr, de DC, de Marvel, et puis quelques autres que j'ai eu la flemme de noter surtout. Mais bon, voilà, il en a
On
fait
te
quand même pas
pardonne.
mal. Et pareil sur des licences assez variées comme Aquaman, Batman, Justice League Unlimited, The New Teen Titans, Avengers, Wonder Woman, X-Files, enfin. Ouais, il a fait beaucoup de choses aussi. Il a fait d'autres Star Trek aussi. Alors au lettrage, on a Sean Lee, Robbie Robbins et Tom B. Long qui vont se succéder au fil des tomes. Alors, ce que j'en ai pensé, les dessins de J.K. Woodward, ils sont assez déroutants au départ, parce que, enfin, en tout cas moi c'est pas un truc auquel j'ai beaucoup l'habitude en comics. En fait, c'est plus de la peinture que tu dessins. C'est ben, plus que
Ouais,
ça,
je
c'est
vois
quand même
l'idée.
totalement de la peinture. Mais on s'y habitue. Enfin, au bout d'un moment, voilà, c'est sur le, la première, le premier numéro. Voilà, ça fait un peu bizarre, mais après on s'y habitue assez vite. C'est assez inégal. Il y a des cases qui sont vraiment brouillonnes. Tu vois qu'il a, il va assez vite. Et bon. Mais à côté, il y en a qui sont magnifiques. Enfin, c'est des, c'est, elles sont somptueuses, quoi. C'est à la limite du photoréalisme des fois dans le dans la qualité de la peinture et c'est assez bien mis en scène voilà donc je pense qu'il doit négliger certaines cases pour pouvoir se permettre de passer plus de temps sur d'autres qui lui paraissent plus importantes à mon avis c'est quelque chose comme ça voilà mais du coup ça voilà ça donne ce rendu inégal je suis pas sûr que ce soit forcément mieux Alors une mention, j'ai une mention spéciale pour la couverture du numéro 2. Elle est vraiment, je l'ai imprimée, je l'ai affichée chez moi en fait. Elle est vraiment magnifique. En
Ah,
fait, on voit.
ça fait un peu redite de ce que tu nous avais dit la dernière fois.
Et ben ouais, c'est vrai. Mais bon, quand j'aime une couverture de comics, mais il y en a d'autres hein, des couvertures de comics que j'ai affichées chez moi. Donc voilà. Mais en fait, on voit. En fait, c'est une page qui est coupée en deux, et au centre, en fait, on a une moitié de Borg et une moitié de Cybermen qui forment du coup un individu entier. Et après, de chaque côté, on voit des Borg et des Cybermen qui sortent. Ça fait un effet de perspective. Ça rend super bien. Elle claque cette couverture vraiment quoi. Voilà. Qu'est-ce que oui. Alors dans le numéro 3, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé. Il y a un flashback pendant lequel donc le docteur se souvient de sa rencontre passée avec Kirk, Spock, Bones et Scotty à l'époque où il était le quatrième docteur, donc joué par Tom Baker. Et ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont changé le style de dessin pour tout le flashback. C'est plus dessiné comme du comics plus traditionnel et un peu plus justement un peu plus rétro.
C'est intéressant ça.
Ouais, c'est j'ai trouvé que c'était vraiment une super bonne idée. Et voilà et du coup qu'est-ce que j'ai d'autre à dire dessus? Alors oui, comme d'hab, il y a du Klingon dedans. Il y en a pas beaucoup. Bon, c'est voilà donc et comme ça m'intéresse je vais forcément en parler donc il y a c'est assez rigolo il y a ils sont en train de s'infiltrer dans un vaisseau Cybermen pour lutter contre eux bon je vais pas rentrer dans les détails et ils tombent sur vraiment une pièce remplie de Cybermen et il y a Worf qui dit cri yar et bah, c'est du vrai Klingon et c'est complètement intraduisible c'est une espèce d'exclamation
Est-ce que ça voudrait pas dire tout simplement ya?
Non, en fait c'est un peu l'équivalent de quand un Français dit merde ou ben voilà truc voilà c'est merde voilà et du coup ce qui est rigolo c'est que j'ai vu le mot j'ai cherché la traduction parce que je l'avais pas en tête j'ai vu qu'il n'y en avait pas mais bon j'ai lu l'explication. Et je me suis dit, ouais, c'est un peu comme quand on dit merde. Et en fait, et juste après, j'ai regardé la case en dessous. Et la case en dessous, il y a Jean-Luc Picard qui dit merde!
Ah, c'est malin,
Et
c'est
en français, du coup,
dans le texte.
dans le texte, voilà. Enfin, dans la VO, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça génial. J'ai éclaté de rire en voyant ça. Je me suis dit, bon, en fait, la traduction, je l'avais juste en dessous. Même si c'est pas tout à fait une traduction.
Ouais, c'est pour comprendre l'idée, quoi.
Ouais, c'est assez cool. Alors, du coup, ce qui est génial dans ce crossover, c'est que du coup, effectivement, déjà, c'est un crossover qui est, on va dire, complètement logique, parce que vraiment, il fallait absolument qu'il y ait un crossover Star Trek Doctor Who, c'était pas possible autrement. Il y a tellement de liens entre les séries que voilà. Et en plus de ça, ils ont la bonne idée d'utiliser les deux des espèces emblématiques de respectivement de chaque série, qui sont elles-mêmes intimement liées dans leur concept et dans leur histoire. Alors pour détailler un petit peu, les Cybermen dans Doctor Who, ils sont apparus en 1966 dans un épisode qui s'appelle The Tenth Planet, donc la 10e planète. C'est des humanoïdes organiques qui ont progressivement implanté de plus en plus de parties artificielles dans leur corps. Donc c'est des cyborgs, hein, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le cerveau qui reste dans un corps artificiel, si je me rappelle bien. Ils peuvent convertir des humains en cybermen. Mais à ce stade, dans cet épisode-là, pour l'instant, ça fait pas partie de leur comment dire, de leur
Ouais.
manière, de leur méthode d'attaque ou de quoi que ce soit en fait. Il y a un moment donné dans l'épisode où ils proposent aux humains d'être convertis en cybermen, comme ça, voilà. Si vous voulez qu'on vous convertisse, on vous convertit. Ils les forcent pas, quoi. Bon, ils cherchent à envahir la Terre, mais ils cherchent pas à convertir les gens.
Salut.
Et donc, côté Star Trek, en 1973, dans un comics des éditions Gold Key, dont j'avais peut-être parlé vite fait dans des émissions précédentes, il me semble, donc dans un numéro qui s'appelle Les Momies de Aetius 7, en particulier, on trouve un ennemi qui est cyborg, donc moitié humain, moitié robot, qui est programmé pour convertir les humains en cyborgs, qui a des tubes pour se brancher sur la technologie et la contrôler, et qui se protège des tirs de phaser par un champ de force individuel. Et
Putain, c'est énorme.
c'est ça les momies de Aetius 7. Donc c'est exactement le concept des Borg tel qu'il sera développé plus tard en fait, sauf que ben, au lieu que ce soit des espèces de zombies cybernétiques, c'est des momies cybernétiques. Voilà. Ça change pas grand-chose.
Non, mais c'est énorme, c'est ça, c'est
Donc
fou.
on avance dans le temps en 1985. Avec l'épisode de Doctor Who Attack of the Cybermen, qui d'ailleurs reprend beaucoup justement les premiers épisodes qu'il y avait eu sur les Cybermen. Et là, ça établit vraiment le concept de cyberconversion ou de cybernisation, je crois que les deux se disent, qui apparaît vraiment, où donc là les Cybermen deviennent, eh ben, comme les momies de Aetius 7, en fait, où convertir les gens, ça fait partie de leurs objectifs et qu'ils le font, ils capturent les gens, ils les cyberconvertissent pour en faire d'autres cybermen. Ce qui fait que les cybermen se rapprochent du concept des Borg, qui n'existait pas encore, mais c'était le concept des momies de Aetius 7, du coup, de Star Trek. Et donc, en 89, on a, côté Star Trek, enfin, l'aboutissement du concept. Donc, dans l'épisode Q, on voit les Borg apparaître, enfin, avec toutes leurs caractéristiques. Et donc du coup, sur cette idée de cyborg qui convertissent les gens en cyborg, eh ben Doctor Who et Star Trek se sont mutuellement influencés et je trouve ça super intéressant. Et du coup, je trouve ça génial de faire un crossover qui les exploite comme ça, qui exploite ça en fait.
Ah oui,
Et
du coup, ouais.
justement, les similarités et les différences entre les Cybermen et les Borg sont pas mal discutées au cours du comics. Et c'est assez intéressant, du coup, parce que du coup, on voit des Cybermen
D'accord. Enfin, je trouve
borgisés.
toute cette histoire et enfin, tout ce concept vraiment génial. Ça me passionne.
Ah ouais, et le scénario du comics est vraiment très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment bien pensé. Ah oui, alors et du coup, la fin du comics. Donc en fait, ils arrivent à. Ils, alors, je spoil ou pas? Oui, je spoil. Allez. En fait, du coup, les Cybermen à un moment donné, ils trahissent les Borg. Ils trahissent les Borg. Ils se mettent à les attaquer. Ils estiment qu'ils ont obtenu ce qu'ils avaient besoin des Borg pour pouvoir conquérir la galaxie, donc ils vont éliminer les Borg pour s'en débarrasser, puis après ils vont s'occuper du reste de la galaxie. Et donc il y a un dilemme moral, est-ce qu'il faut s'allier avec les Borg pour détruire les Cybermen, dans la mesure où les Cybermen sont une menace qui est devenue plus grande que les Borg? Et donc tu as la confrontation entre le Docteur et Jean-Luc Picard, qui débattent voilà, pour essayer de savoir ce qu'ils font. Donc ils finissent par s'allier temporairement avec les Borg. Pour éliminer les Cybermen. Et puis après, bah, chacun rentre chez soi. Mais du coup, les Borg, c'est le fait d'avoir rencontré le Docteur, ça leur donne l'idée de s'intéresser au voyage dans le temps. Et
Ah,
en
je vois où
fait,
ça va venir.
voilà. Et ça se termine comme ça, le comic se termine comme ça. les Borg se disent, tiens, le voyage dans le temps, c'est pas con pour donner first contact, quoi.
Ah, c'est génial. Ben alors, on va trouver un petit peu le même genre d'idée dans le comic dont je vais parler tout à l'heure. Je trouve ça vraiment malin de se dire, on va mettre une petite touche d'influence comme ça par rapport à une œuvre déjà faite. Je trouve ça super.
Eh ben, écoute, je t'invite à en parler dès maintenant, parce que aussi étonnant que ça puisse paraître, bah, j'ai fini.
Attends, c'est pas possible, ça fait même pas 20 minutes que tu parles.
Et je te dis que j'avais pris assez peu de notes.
Bah écoute, très bien, avec plaisir. Bien, moi, je vais parler du crossover entre IDW et Boom Studio, Star Trek Planet of the Apes... sous-titré The Primate Directive. Un petit jeu de mots, bienvenue. Alors, au scénario... au scénario, on a les frères Tipton. Donc, comment tu as dit Scott et David? En fait, je pense que Scott et David Tipton, c'était les scénaristes de Star Trek en comics. Jusqu'à 2009, où Mike Johnson est arrivé. Parce que... Ah ben non, puisque d'ailleurs, non, parce que même dans Mirror Broken, c'est toujours les frères Tipton. Du coup, peut-être que Mike Johnson ne s'occupe que de la KTL et les frères Tipton de Star Trek de manière générale. Je sais pas, il faudrait enquêter là-dessus. Au dessin, on a Rachael Stott, que je ne connais pas, et je n'ai pas fait ton travail de... Alors attends, parce que là tu dois avoir une montée de ping, parce que je n'ai rien compris. Excuse-moi. Alors, donc on disait oui, Rachael Stott, est-ce que tu le connais?
Comment tu dis?
Rachael Stott.
Non, ça me dit rien du tout.
Voilà, vu que j'ai pas fait trop de recherches, je saurais dire qu'il dessine très bien, mais je ne saurais pas dire ce qu'il a fait. Alors, j'ai quand même fait une petite recherche. Donc là, je suis le lendemain de l'émission, désolé, hein, c'est le genre de choses que je ne referai pas à l'avenir. Je vais essayer d'être un peu plus sérieux dans mon travail. Je vous présente vraiment toutes mes excuses. Vraiment, désolé. Et surtout, désolé, parce que Rachael Stott est en fait une femme. Donc, tout le long de l'émission, je vais la misgenrer. Je suis vraiment, vraiment, je présente mes excuses les plus plates à ce propos. Rachael Stott a œuvré sur la nouvelle série Ghostbusters qui paraît chez IDW, je crois, si je dis pas de bêtises, et surtout sur beaucoup de séries et de one-shots sur Doctor Who. Donc voilà, la boucle est bouclée, je trouve ça extrêmement intéressant. À la colorisation, Charlie Kirchhoff, et au lettrage, Tom B. Long, que tu viens de citer. Donc, ce comic book se passe en 2015. Enfin, non, ça se passe pas en 2015. Il a été publié en 2015. Et première surprise pour moi, on a l'équipage original et les personnages du film original de La Planète des Singes. Pour un truc d'après 2015, je suis surpris qu'on utilise le Kirk avec le visage de Shatner. Et qu'on n'utilise pas les personnages du reboot de la Planète des Singes. Bref, c'est une chouette surprise pour moi. Donc ça se passe sur Terre, en 3978, la Planète des Singes. On y voit en fait un personnage qui vend une Kalachnikov au Général Marius. Le Général Marius, c'est un personnage assez iconique de la Planète des Singes. C'est un gorille c'est le leader des armées, en gros. Et on devine très rapidement, en fait, que le vendeur est un Klingon. Et si on a regardé la quatrième de couverture, en fait, on sait qu'il s'agit de Kor. Est-ce que j'ai bien prononcé?
Kor. Il est facile, celui-là. Donc, le même Kor, qui est habitué à vendre des armes. Si je me souviens
exactement.
Bien.
Voilà. Mais tu vas nous faire notre petit point connaissance Klingon, parce que c'était le corps de. Il était dans Tribul. Non.
Alors, figure-toi que je me souviens plus du nom de l'épisode auquel je pense.
Core, ben en fait, en gros, Core fait un peu la même tactique que l'épisode que tu recherches. C'est-à-dire que il essaye d'influencer dans son sens toute une nation planète en vendant des armes et en faisant balancer le corps armé dans son camp. Ben, le temps que tu cherches le titre de l'épisode, je
Je
continue.
suis dégoûté de pas m'en souvenir parce que en plus il y a
C'est un super épisode.
surtout une bonne partie de la fanfiction que j'ai écrite sur Star Trek se passe sur cette planète en
Ah
fait.
ben oui. Ah ben
C'est un peu
écoute.
la loose.
Enfin bref. De son côté, l'Enterprise enquête sur un signal Klingon qui sous-entendrait qu'ils sont en train de monter un plan pour mettre au point une nouvelle arme. Bref, tout ça juste pour une excuse pour mettre Uhura et Sulu qui se trouvent sur Kronos. Et ils sont grimés en Klingon époque humaine. Bref,
Ah,
je
très
passe
bien.
les détails. Il se trouve qu'en fait, les Klingons ont découvert une réalité parallèle dans laquelle les humains ont disparu et sont remplacés par des singes. Surprise! L'Enterprise déboule, dégomme un vaisseau Klingon en 3 secondes, il fait fuir l'autre vaisseau. Je les ai trouvés hyper efficaces. Genre, ils débarquent, il y a deux vaisseaux, poum! Ils en détruisent un en 2 tirs. Et le troisième s'enfuit. Et genre, il n'y a pas de conséquences. Le vaisseau ne revient jamais. Il ne rappelle pas de renfort. Bref, c'est pas. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que c'était. Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu dire avec ça. Kirk, évidemment, est déterminé à découvrir ce que font les Klingons sur cette terre parallèle. Et il veut savoir, en fait, s'il doit les arrêter. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que le Kirk de l'époque. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises parce qu'il me semble que j'en dis pas, mais peut-être que si. Il est pas à fond. Ah, ça commence. Oui, à nouveau, j'ai les fenêtres ouvertes, il fait chaud et voilà. On va attendre un petit peu. En plus, il est bien tard, tu vois. désolé. Il est pas à dire, tiens, il y a les Klingons. Qui sont en train de conquérir cette planète parallèle, il faut les arrêter. Il dit juste, tiens, il y a les Klingons sur cette planète parallèle, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'il faudrait peut-être les arrêter?
Oui, je vois.
C'est pas le Kirk anti-Klingon qu'on retrouve dans Star Trek 6. Il est moins sûr de sa position. Et
Ouais,
notamment, en
mais
fait,
si
il
ça se
hésite.
passe avant, c'est tout à fait normal
Oui.
vu qu'ils ont pas, enfin, son fils n'a pas encore été tué par des
Voilà,
Klingons, donc.
voilà. Wow, spoiler alert. Oui. Non, non.
Oups, pardon, désolé.
Non, non, mais oui. Et puis même, il y aura bien d'autres rencontres avec les Klingons d'ici là. Et d'ailleurs, il parle de la directive première. Est-ce que dans un univers parallèle, Starfleet a le droit d'agir, d'empêcher ce genre d'agissement de la part d'une espèce non humaine. Et d'ailleurs, c'est Bones qui pose la question, est-ce que la prime directive s'applique aux univers parallèles? Je sais pas ce que t'en penses.
Eh ben, je trouve que c'est une bonne idée, ouais,
Ouais,
effectivement,
passe.
de se poser la question. Je crois pas que ça s'est posé. Je me souviens pas que ça se soit posé dans Star Trek avant. Parce que bon, des univers parallèles, il y en a, hein, mais je crois que ils se sont jamais posé la question de la prime directive, hein, dedans. Je crois qu'en plus les personnages étaient tout seuls à ces moments-là, donc ils n'avaient pas trop l'occasion de débattre, donc ouais, c'est, et du coup moi j'aurais tendance à dire que on s'en fout, enfin on s'en fout, je vais m'expliquer. C'est que l'intérêt de la prime directive, il est effectivement de protéger les peuples qui vivent de l'impérialisme, donc les peuples, comment dire, qui ne sont pas de la Fédération. Mais il est aussi pour protéger la fédération des conséquences de ce qu'elle fait subir à ses peuples, que ça soit avec de bonnes intentions ou pas. Parce que bon, si tu donnes la distorsion à un peuple et qu'après il s'en sert pour aller détruire, je sais pas, Andoria ou la Terre, ou peu importe, ou l'aide de leur avoir donné la distorsion. Ça, tu peux pas le savoir. Donc, du coup, c'est aussi pour protéger la Fédération. Dans un univers parallèle, dans la mesure où il y a peu de chances que ces univers entrent en contact de manière permanente, techniquement, tu peux y mettre tout le foutoir que tu veux, il y aura pas trop de problèmes, quoi. Donc, ça veut pas dire que c'est éthique.
Ouais, voilà. C'est pas très éthique, pour le coup. Bah écoute, je ne sais pas. Moi, je trouve ça cool de se poser la question et je pense que si il n'avait pas s'agit de la Terre, peut-être que en fait, même si ce sont plus des humains, hein, que ce sont des singes, peut-être que Kirk et l'Enterprise en fait n'auraient pas agi. Je sais pas. Bref, bon, je vais pas spoiler trop l'histoire. On rencontre tous les personnages principaux du premier film de La Planète des Singes. Il y a beaucoup de clins d'œil. C'est vraiment très cool. On a une grosse mention. Enfin, je donne une grosse mention spéciale à Taylor, le personnage central du premier film, qui était joué par Charlton Heston, qui est totalement paranoïaque. D'ailleurs, au final, pendant presque les trois quarts du bouquin, la résistance que rencontre l'équipage vient plus de Taylor que des singes, ou même que des Klingons. Ce qui confirme une fois de plus que l'antagoniste, en fait, n'a pas besoin d'être méchant. Il a besoin d'avoir un but différent des protagonistes. Ce que tu disais quand on en a parlé de Star Trek 2009, je crois.
Je
de
sais plus
Khan,
quand est-ce qu'on en a parlé,
de,
mais je,
non, non,
ouais,
de,
je vois.
lors de, La colère de Khan. On retrouve le duo Zira et Cornelius, les deux singes savants. Et dit comme ça fait le couple qui jouait les savants dans le film. On a, franchement, enfin voilà, on a un gros respect de l'époque, enfin des deux univers, assez bien maîtrisés. Il y a juste deux choses qui m'ont fait un peu tilter. On a une scène assez bizarre dans laquelle Tyler se retrouve dans un ascenseur. Alors Tyler, oui, parce que peut-être que tu connais pas. Enfin, tu connais, mais peut-être pas trop.
Bah,
Donc
en
en
fait,
fait,
ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc je me souviens plus trop des
alors
personnages.
l'histoire prend place à la fin du premier film de La Planète des Singes. Donc dans La Planète des Singes, on a Taylor qui est un cosmonaute, un explorateur terrien, qui est parti dans l'espace avec trois amis, pas trois amis, mais trois collègues, de chercher une nouvelle forme de vie et peut-être un nouvel endroit où vivre. Et en fait, ils dorment, ils se mettent en animation suspendue, c'est comme ça qu'on dit?
Ouais,
Ouais.
je pense que
Et
oui.
leur vaisseau se crache sur une planète perdue. Un des membres d'équipage décède bien avant même de s'écraser. Puis en fait, bref, ils se rendent compte que c'est une planète remplie de singes. Les deux autres membres d'équipage meurent, Taylor survit, et en fait, il se rencontre à la fin du film qu'il est dans le futur de la planète Terre, un futur apocalyptique, puisque les hommes, dans leur guerre, en fait, ont déclenché la bombe atomique, et l'espèce vivante qui dominante à partir de là est devenue le singe. Donc il y a les gorilles, les chimpanzés et les orang-outans, représentant chacun des castes. Bon, c'est pas le sujet. Et donc Tyler, en fait, est un... Les humains restants survivants ont régressé. Ils ont même perdu la parole. Ils sont totalement incapables de monter une société. Mais ils
Ouais,
vivent
j'ai un
en
souvenir assez
groupe, quoi.
marquant où on les voit dans un espèce de zoo, où ils sont en cage et...
Exactement. Voilà. Donc les singes les utilisent, ils les chassent pour le plaisir, ils les utilisent pour faire des expériences, ils les observent dans des zoos, parce qu'il n'y a plus trop d'animaux, en fait. Il y a plus, ce sera développé dans les autres films, mais il n'y a plus beaucoup d'animaux. Il n'y a plus que des, il n'y a plus de chiens, il n'y a plus de chats, il n'y a plus, enfin bref. Et donc Taylor est le seul humain un peu intelligent. Tout ça pour en venir donc à cette scène un peu bizarre dans ce comic. Taylor se retrouve dans un ascenseur de l'Enterprise avec une femme, membre d'équipage de l'Enterprise. Et la femme y est sur trois cases et elle ne lui parle pas. Enfin, ils s'échangent juste un mot, je crois. La femme le dévore littéralement du regard. On a l'impression qu'elle se retient de lui sauter dessus. Je crois même qu'elle se mord la lèvre. Elle est hyper sexu... Enfin, non, elle n'est pas hyper sexualisée, mais elle est relativement très sexualisée par rapport à tous les autres personnages. Uhura, par exemple, elle est pas particulièrement sexualisée dans ce comic books. Je sais pas, en fait, où ont voulu en venir les auteurs, le dessinateur. Je sais pas, peut-être que j'interprète mal le dessin. Donc, s'il y a des auditeurs qui ont lu ce comics, qui ont quelque chose à dire là-dessus, éclairez ma lanterne, parce que je ne comprends pas, en fait. C'est une scène un peu gratuite pour montrer que Tyler, voilà, il roule des mécaniques, mais enfin, je sais pas. Bref. Et la deuxième scène qui m'a gêné, une petite erreur vraiment très mineure mais surprenante. À un moment, en fait, Tyler se retrouve dans une navette et il dit, mais comment peut-on piloter un vaisseau sans accélérateur, with no throttle. Et en fait, dans le film original, on le voit clairement piloter une navette spatiale avec seulement des boutons et il y a pas de manette, il y a pas d'accélérateur. Du coup, c'est un peu chelou. Bon.
Mais quand il parle d'accélérateur, c'est peut-être le bouton d'accélérateur. Ben
non, en fait, throttle, ça sous-entend une manette, un accélérateur manette.
Ah, d'accord.
Puis de toute façon, la navette est posée, elle est pas démarrée, donc pourquoi est-ce qu'il dirait pourquoi on peut pas appuyer sur un accélérateur? Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais.
C'est ouais, c'était un peu particulier. Le dessin est plutôt bon. Il y a juste des petits moments où en fait, on voit que le dessinateur devait être un peu pressé parce que genre quand il dessine les singes à cheval, en fait, il prend 5 ou 6 fois le même dessin qu'il copie-colle. Et il modifie la couleur du cheval, il modifie la couleur de l'armure du singe qui est dessus.
Ah, une technique de feignasse.
Ouais, une petite technique un peu feignante qui fonctionne parce que quand tu lis vite, tu vois juste des mecs qui galopent. Mais quand tu fais gaffe au dessin, comme je fais un peu gaffe au dessin, parce que moi si je suis aussi fan de comics books, c'est autant pour les histoires que pour les dessins. Et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est ce truc à... Donc voilà, il fait beaucoup de réplications des personnages de manière générale. Voilà, tout le long de l'histoire, en fait, on se demande qu'est-ce qu'ils font là, les Klingons. C'est un peu particulier. Mais je vais faire comme toi, je vais spoiler parce que franchement, c'est pas énorme. En plus, c'est dit en une ligne, donc c'est pas hyper intéressant. Je pense qu'en fait, ils ont fait ce crossover vraiment pour se faire ce crossover. Les causes, les tenants et les aboutissants sont pas hyper, sont un peu casse-gueule. Et en fait, tu vas peut-être pouvoir rebondir là-dessus. On comprend que les Klingons sont là parce que ils ont besoin d'expansion militariste. Parce que, ce sont des Klingons, quoi. Et dans l'univers Prime, ils sont bloqués à cause des traités de paix organiens. Est-ce que ça te dit quelque chose?
Totalement. Et alors, je vais faire juste un aparté. L'épisode auquel je pensais, c'est Errand of Mercy.
Oui.
Il y a les armes, justement. Mais en fait, c'est pas du tout Kor qu'il y a dedans.
Ah.
C'est des Klingons qui sont même pas nommés dans l'épisode, en fait. Dans le comics dont je parlais la dernière fois, on a le nom de leur chef qui s'appelle Krell, et voilà, mais c'est pas canon, en fait. Même dans le canon, on sait même pas comment il s'appelle, ceux de l'épisode Private Little War. Et donc Kor, par contre, du coup, c'est beaucoup plus lié à ce que tu dis. En fait, Kor, c'est le gouverneur d'Organia dans Errand of Mercy, le premier épisode où apparaissent les Klingons.
Oui.
Et donc justement, à la fin de l'épisode, t'as les Organiens qui sont des êtres pratiquement omnipotents. Qui stoppe la guerre entre les Klingons et la Fédération, plus ou moins de force, quoi.
Oui, je pense. Que...
Et donc effectivement, du coup, Kor, il peut plus appliquer la politique impérialiste et expansionniste de l'Empire Klingon du côté de la Fédération, quoi. Après, il y a pas que la Fédération à côté de l'Empire Klingon, ils auraient pu s'étendre ailleurs.
Oui. Comme je disais, en fait, c'est vraiment une excuse pour une excuse.
On se dit, pourquoi pas, et puis c'est pas mal, ça fait le lien avec Errand of Mercy, donc c'est plutôt sympa.
Un petit clin d'œil. Ouais, sur le coup, moi, ça m'a un petit peu, mais vraiment très légèrement frustré. D'autant que le livre, en fait, prend vraiment le parti de faire en sorte que l'histoire soit un peu façon Retour vers le futur 2. on passe plusieurs moments des trois premiers films de La Planète des Singes en ayant une influence indirecte, tu vois. Et en gros, en fait, cette histoire, comme je disais, se passe après le premier film, avant le second, mais on a des passages de la fin du second et on a le début du troisième film. Ouais, c'est un peu particulier à expliquer, parce que je veux pas spoiler, parce que c'est vraiment une chouette histoire, je trouve.
Surtout n'ayant pas vu les autres films.
Je vais prendre un exemple tout simple. À la fin, dans le troisième film de La Planète des Singes, on inverse l'histoire. Ce sont Zira et Cornelius et Milo, un troisième chimpanzé, qui partent dans une navette spatiale et qui reviennent sur Terre à l'époque, j'allais dire à notre époque, mais à l'époque du film, donc dans les années 70. Et en fait, dans ce film, le thème du voyage dans le temps n'est pas du tout abordé. On ne sait pas comment ils ont fait pour revenir dans le temps. Et bien, en fait, dans le comics, il y a Milo qui utilise un ordinateur de l'Enterprise, je crois. Il tombe sur la théorie de, je sais plus si c'est de Scotty ou de Spock, relative au soleil. Si tu fonces vers un soleil, c'est dans le quatrième film qu'on utilise ça. Du coup, ça fait un petit clin d'œil également au quatrième film. Et donc, on explique le lien entre le deuxième et le troisième film de La Planète des Singes en utilisant le quatrième film de Star Trek. Je trouve ça pas mal.
Ouais, effectivement, ouais, c'est pas mal. Ouais.
Parce que quelque part, on peut dire que c'est une théorie que Spock élaborait depuis des années. Non.
C'est enfin bon. Que Spock l'élaborait depuis des années, c'est difficile vu qu'il vient de ressusciter. Ouais.
Peut-être qu'il l'élaborait avant de mourir.
Après, moi j'ai toujours considéré qu'ils avaient besoin du soleil pour voyager dans le temps à ce moment-là. Parce qu'en fait, il suffit de. C'est pas grave. Mais c'est quand même pas bête de faire des ponts comme ça. C'est toujours rigolo. Et puis quand c'est bien fait, c'est sympa, quoi.
Voilà, exactement. J'ai passé, en fait, tout le long de ce récit, vraiment une super histoire très prenante et chouette. Enfin, c'est cool. C'était vraiment chouette. Et les dernières pages sont tout simplement monstrueusement géniales. Donc si vous aimez l'ambiance et le rythme de la série originale, jetez-vous dessus, même si vous n'avez pas vu en fait les films de La Planète des Singes, parce que c'est tout à fait compréhensible. À la limite, voilà ce que je viens de dire, ça on peut se dire mais qu'est-ce que c'est, mais bon, on comprend que c'est un clin d'œil au film, donc c'est pas, enfin voilà, franchement ça va. Je conseille vraiment ce comic book à quiconque veut se lancer dans les comics Star Trek. Je trouve vraiment que c'est une chouette histoire. Et même si vous connaissez pas trop Star Trek, en fait, parce que y a pas besoin d'être hyper connaisseur. Les personnages sont bien expliqués, bien archétypés. Voilà, c'est très positif.
Est-ce qu'il y a besoin de bien connaître La Planète des Singes pour
Non, pas du tout. Pas du tout. Non. D'ailleurs, il crée des nouveaux personnages à plusieurs moments et je trouve ça chouette.
Même sans connaître ni l'un ni l'autre, on peut se lancer là-dedans.
Je pense qu'on peut se lancer là-dedans. Il y a juste la première partie. C'est une histoire en cinq parties. J'ai oublié de le dire. La première partie, se passe un peu sur Chronos. Donc si on connaît pas la différence entre les Vulcains, entre les Klingons et les humains, on se demande un peu ce qui se passe. Mais le reste du temps, c'est vachement chouette. Après, oui, bon, c'est sûr que si tu connais l'univers, les deux univers, enfin même un minimum, t'es moins perdu. Mais
oui, bien sûr, comme
c'est relativement bien expliqué, quoi. C'est cool. Par exemple, ils se contentent pas de rencontrer des humains qui sont muets. Ils rencontrent des humains et on leur dit, Taylor leur dit, ils sont muets parce qu'ils ont régressé. Donc c'est très accessible.
Ok. Je m'aperçois que j'ai pas du tout évoqué ça dans ma critique de crossover Doctor Who Star Trek. c'est bête, c'est le principe de l'émission.
Et alors?
alors, je pense qu'il n'y a pas besoin de connaître Star Trek pour l'apprécier. Par contre, je pense qu'il faut connaître un peu Doctor Who. En tout cas, le revival. Et les personnages. Voilà, au moins jusqu'au moment où il y a ce docteur-là. Qui y est. Mais après, voilà. D'ailleurs, c'est un comics que je conseille vraiment aux fans de Doctor Who qui auraient envie de toucher un peu à Star Trek. C'est parfait pour démarrer, je pense.
D'accord. Mais pas l'inverse.
Ouais, non, l'inverse, non. Je trouve que les personnages sont.
D'ailleurs.
Il
n'y
a pas trop d'exposition sur le docteur ni ses compagnons. Donc, c'est. Ouais. On ne sait pas trop qui c'est ni d'où il sort si on ne connaît pas Doctor Who, quoi.
D'ailleurs, moi, j'aimerais bien me lancer dans Doctor Who. Par quoi tu me conseilles de commencer? Parce que j'ai vu sur Netflix que la série y était. J'ai regardé le premier épisode. C'est avec le docteur de ce crossover, justement. J'ai trouvé pas mal, bon, dans le thème abordé, mais ça m'a pas, voilà, ça, comme on pourrait dire un petit peu vulgairement, ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Du coup, tu saurais me conseiller pour débuter?
Alors,
Doctor Who,
oui
pour
et
les
non.
Nuls.
En fait, le truc, c'est que j'ai vu quelques épisodes des ce qu'on appelle les classiques, mais j'en ai pas vu assez pour vraiment pouvoir conseiller là-dessus. Donc moi, le seul truc que je peux conseiller, c'est commencer par le revival de 2005, en fait. Donc,
oui.
Que je dise pas de bêtises. C'est le 10e, je crois, le 10e docteur.
Oh là là, d'accord.
Mais en fait, c'est facile, hein, vu que Doctor Who s'est arrêté entre 89 et 2005, bah c'est le moment où elle a repris, en fait, en 2005, donc de la seconde série.
D'accord.
Et donc, je disais bien une bêtise, c'est donc le 9e docteur.
Ok.
Parce qu'en fait, pour expliquer, du coup, c'est vrai que j'aurais dû en parler un peu plus pour les gens qui connaissent pas Doctor Who. En gros, donc le docteur, c'est un extraterrestre qui vient d'une planète qui s'appelle Gallifrey, qui ressemble énormément à un humain, en tout cas de l'apparence extérieure. À l'intérieur, c'est un peu plus bizarre. Il a deux cœurs, par exemple. Il est immortel et il voyage dans un vaisseau spatio-temporel qui s'appelle le TARDIS, qui du coup en principe est doté d'un système de camouflage, c'est-à-dire quand il arrive à un endroit, le TARDIS va prendre l'apparence d'objet de l'environnement pour qu'il se remarque pas. Mais son TARDIS à lui, il est bloqué sur une cabine téléphonique anglaise à l'ancienne. Enfin non, pas une cabine téléphonique, pardon, une police box. C'est-à-dire c'était un truc qui servait quand les flics attrapaient quelqu'un. Qu'ils avaient besoin d'un fourgon pour les ramener, ils les enfermaient dans ces cabines. Et il y avait un téléphone derrière qui leur permettait d'appeler le commissariat pour amener un véhicule pour les amener en prison. C'était une sorte de mini prison temporaire. Enfin bref, voilà.
L'idée est super, super bonne. C'est con, hein, mais est-ce que quelqu'un autre que les Anglais y aurait pensé, quoi?
Je sais pas. Et du coup, il voyage dans le temps et l'espace, il se promène, voilà. Mais comme tout seul, il s'ennuie un peu, eh ben, il prend des compagnons, des compagnes. Donc, c'est-à-dire que c'est des humains, qu'il va piocher. Alors, souvent au 20e ou au 21e siècle, enfin, aller aux époques de production, quoi. Parce qu'il adore les humains de cette période-là, qu'on sait pas trop pourquoi. Et du coup, il les amène dans ses aventures pour lui tenir compagnie. Ils sont évidemment consentants et ils s'éclatent, ça leur plaît, même s'ils risquent leur vie 3 fois par jour. Mais c'est, voilà. voilà pour la petite histoire. Et donc voilà, donc la saison 1 du Revival qui est sortie en 2005. Ouais, je conseille ça pour commencer. C'est par là que j'ai commencé. J'ai passé un bon moment. Et donc oui, alors du coup, pourquoi il y a plusieurs docteurs? C'est parce qu'en fait, non, il y en a qu'un seul. C'est juste que quand il meurt. C'est un peu comme un phénix, en fait, il renaît. Il renaît et il change d'apparence et il change un peu de personnalité. Et il garde les souvenirs d'avant, mais voilà, il change d'apparence et de personnalité. Et du coup, c'est pour ça qu'on compte, en fait, les docteurs par rapport à ses régénérations. Et c'est l'astuce scénaristique qu'ils ont trouvée pour pouvoir changer d'acteur régulièrement, tout en considérant que c'est le même personnage et que ça soit justifié en interne, quoi. Je trouve que c'est plutôt sympa.
Ouais, c'est malin. Oui, ça fonctionne. L'idée fonctionne, quoi. Ok. Petite mention spéciale quand même pour la dernière. On a des superbes covers et d'autres covers un peu moins bien. Je pense notamment à celle de Juan Ortiz qui fait une cover magnifique. Bref. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Bah non, du coup j'ai dit ce
N'hésite
que j'avais
pas.
oublié de dire, donc
C'est très bien.
voilà, c'est bon.
Ben écoute, je pense qu'on va pouvoir conclure cette émission. Très cher Dragor, je te souhaite une vie longue et prospère.
Merci, toi aussi.
Merci, c'est très gentil. Très chère auditrice, très chers auditeurs, très bonne soirée ou bonne journée à vous. N'hésitez pas à réagir, vous le savez, je vais pas le répéter à chaque émission, ça fait un peu redondant. Ça fait un peu genre appuyer sur le pouce bleu, partager, commenter. Je m'en suis rendu compte récemment que je passais un peu pour un podcasteur de seconde zone. Bref. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Soyez heureux dans votre vie et vivez en paix. À bientôt.
Crapla.
Star Trek pour les nuls.